Lionel, bonjour.
Bonjour.
Émission aujourd'hui qui va être consacrée à un gros, gros problème de la physique.
Bah oui, depuis quelque temps déjà, on essaye de trouver une loi de la physique qui parlerait de tout ce que l'on peut observer actuellement. Et ben, on est resté coincé à deux. Entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et on n'arrive pas à trouver une loi qui expliquerait les deux. Donc on cherche où sont les failles.
Alors, la loi de l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique.
C'est la mécanique quantique, tout à fait. Et celle de l'infiniment grand, c'est plutôt la relativité, et en particulier la relativité générale.
Donc on a espoir, d'ici quelques années, de trouver une nouvelle loi qui permettra d'unifier...
Oui, bien sûr, c'est un peu le but. Il y a plein de chercheurs qui sont dessus. Donc on cherche. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais on commence à avoir quelques petites pistes.
Très bien, on en reparle dans quelques instants. Première pause musicale. Le thème donc de l'émission d'aujourd'hui, c'est les lois de la physique à la loupe. Quand on dit à la loupe, oui, parce que avant de pouvoir parler d'une convergence, enfin de trouver une convergence entre la mécanique quantique et la relativité générale, on va étudier, je pense, chacune d'entre elles.
On cherche en fait à trouver les petites failles qui montreraient qu'en fait l'une ou l'autre ou les deux ne sont pas complètes et n'expliquent effectivement pas tout. Alors, d'où viennent ces deux grandes théories que sont la mécanique quantique et la relativité générale ? Elles viennent simplement de l'observation de quatre forces fondamentales de la nature.
Parenthèse, on dit quantique et non pas quantique.
On dit quantique, oui.
D'accord.
C'est les quantas, un quantum des quantas, c'est latin.
Très bien.
C'est latin, ce sont des paquets d'énergie, des quantums d'énergie. Donc, en observant la nature, on a observé qu'il y existait quatre forces fondamentales. Elles sont caractérisées par deux paramètres, leur intensité et leur rayon d'action. La première que l'on avait découverte depuis très longtemps, c'est la force de gravité. C'est celle qui explique que les planètes tournent autour du Soleil, qu'une pomme simplement tombe par terre, ça c'est Newton, on va dire, que les galaxies sont en forme de galaxie, donc une cohésion avec les étoiles. Donc c'est une force qui est assez intense et qui surtout a un énorme rayon d'action puisque c'est celle qui régit l'univers dans sa totalité. Donc c'est une force extrêmement importante. Quand on va vers l'infiniment petit, on va trouver d'autres forces. Il y a d'abord la force électromagnétique, c'est celle qui lie les électrons autour du noyau des atomes. C'est aussi celle qui fait fonctionner les aimants. Donc des pôles inverses s'attirent, des pôles identiques se repoussent, ça c'est la force électromagnétique. Alors la force électromagnétique, elle est plus intense que la force de gravité, mais elle a un rayon d'action beaucoup plus faible. Par exemple, si on promène un aimant au-dessus d'un autre au-dessus d'une table, on peut réussir à faire léviter celui qui est posé sur la table, ce qui veut dire que la force de gravité a été vaincue. Mais évidemment, ça n'arrive que si la distance entre les deux est très faible. Si on le fait à un mètre au-dessus, il ne se passera strictement rien.
Alors qu'on précise, ce ne sont pas des forces contraires, hein, on est bien d'accord.
Hein. Non, du tout.
Du tout.
Du tout, ce sont deux forces différentes qui décrivent des choses différentes. Une force encore plus forte que la force électromagnétique, c'est une force que l'on trouve à l'intérieur du noyau, celle qui permet de maintenir les noyaux cohérents, c'est-à-dire entre les protons. Les protons sont des particules de charge positive. Et comme on vient de dire, la force électromagnétique, a priori, tendrait à les repousser. Eh bien non. En deçà d'une certaine distance, encore plus courte que pour la force électromagnétique, et on arrive à vaincre ces charges positives et une force, la force forte, entre en jeu pour justement les maintenir les uns avec les autres. C'est ce qui explique la cohésion des noyaux dans les atomes. Et la quatrième force, c'est la force faible. C'est celle qui est responsable de la désintégration des atomes. C'est-à-dire qu'un atome qui serait instable, genre uranium, des choses comme ça, arrive à se désintégrer en émettant des particules. Et ces émissions de particules, justement, sont souvent des émissions radioactives. Donc désintégration d'atomes, c'est la force faible qui entre en jeu. Cohésion à l'intérieur de l'atome, c'est la force forte. Les électrons autour, c'est la force électromagnétique. Et au-delà, c'est la force de gravité. Donc, il existe deux grandes lois maintenant qui viennent expliquer ces forces-là. Les trois forces qui concernent l'infiniment petit, à savoir la force électromagnétique, la force forte et la force faible, sont expliquées par la mécanique quantique, qui est une description du monde atomique. Et la force de gravité a été décrite par la théorie de la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. Il y a deux façons de voir la gravité, soit comme une force entre deux objets très massifs, et donc là, on imagine qu'il y a, certains cherchent des particules messagères qui véhiculent cette force-là, Et donc là, c'est tout ce qu'avait fait Galilée, Newton. Et il y a une autre façon de voir la gravité, non pas comme une force, mais comme une courbure locale de l'espace. Ça, c'est Einstein qui a postulé plutôt pour cette théorie-là. Alors, comment ça se passe? Imaginez un matelas plat, vous lancez une bille, la bille ira en ligne droite. Si par contre vous mettez un poids, quelque chose de pesant sur le matelas, vous lancez la bille va avoir une trajectoire courbe. Elle va être courbée parce qu'il y a justement une cuvette au milieu du matelas. Eh bien, il y a deux façons de décrire cette trajectoire courbe. Soit la bille a subi une force, la force de gravité à cause de la masse, c'est ce qui a fait dévier sa trajectoire. Soit simplement, c'est la présence de la masse a courbé l'espace localement. Lorsque la bille est passée, elle a suivi une trajectoire qu'on appelle une géodésique. Elle n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas continuer en ligne droite. Sa trajectoire a été incurvée. Ça, c'est Einstein qui a justement proposé cette façon de voir les choses.
D'accord, on y revient dans un instant. Lionel, il y a quelques instants, nous commencions à parler d'Einstein. Moi, je voudrais revenir quand même un instant sur une question qui m'interpelle, si on peut s'exprimer de cette façon. C'est pourquoi cherche-t-on à unifier justement ces deux théories? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en fin de compte, c'est la vision d'infiniment petit et de cette façon, et une fois qu'on passe dans l'infiniment grand, c'est une autre façon et c'est cohérent?
Oui, mais justement, à partir de quand on passerait de l'un à l'autre? Il y a une frontière qui est un petit peu floue. Et puisque tout existe dans l'univers, que ce soit l'infiniment petit, l'infiniment grand, forcément, ils doivent obéir à quelque chose de commun. Ensuite, que ça s'applique de façon différente quand c'est petit ou quand c'est grand, il n'y a pas de problème. Mais il doit y avoir d'abord une base commune. C'est cette base que l'on est en train de chercher. Et actuellement, on ne parvient pas à unifier ces deux théories. On ne trouve pas de super théorie dont ces deux-là découleraient. Elles sont même, à la limite, contradictoires sur certains phénomènes. Les trous noirs, par exemple, ou d'autres choses dans l'univers. Avec les deux théories, on ne parvient pas aux mêmes conclusions. Donc là, il y a un problème majeur. Alors, ça se comprend aussi, c'est que ces deux théories ont été basées sur ce que l'on voit de l'univers. Et actuellement, ce que l'on voit ne représente que 5% de ce qui existe. Donc on ne voit que 5% de la masse de l'univers. Tout le reste est totalement inconnu. Et ces deux théories-là sont basées sur ces 5%-là. Évidemment, ça ne peut pas tout expliquer. C'est pour ça qu'il y a un problème entre les deux.
Ce qui veut dire que si on arrive à observer plus que ces 5%, on risque de remettre en cause ces théories.
Bien évidemment.
Ou elles peuvent se trouver confirmées.
Ben, soit, de toute façon, ce ne sera peut-être pas infirmé. Ce sera probablement confirmé, puisque la relativité générale, tout comme la mécanique quantique, explique plein de phénomènes actuellement. Je n'ai pas dit qu'elles étaient fausses, j'ai dit qu'elles étaient incomplètes et qu'il existe quelque chose au-dessus de ces deux-là. Lorsque l'on connaîtra 100% de l'univers, évidemment là, on comprendra mieux ce qui s'y passe et on comprendra comment on peut faire pour les compléter. Actuellement, avec simplement les 5% que l'on peut observer, on n'arrive pas à savoir où ça pêche. Alors, quelle est l'origine de tout? C'est Galilée. Galilée, c'est le premier, on va dire, physicien un peu sérieux qui a émis le principe de relativité. Et il a dit, ce que l'on observe dans l'univers ne doit dépendre ni du lieu, ni du moment, ni de la direction, ni du mouvement, à condition que le mouvement soit rectiligne et uniforme. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe en ligne droite, qui ne subit aucune force, il n'y a aucune raison que ça modifie quoi que ce soit. Newton a repris les idées de Galilée, et lui a élaboré un nouveau principe, c'est le principe d'inertie. Justement, c'est exactement ça qu'il dit. Qu'un objet soit immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, si aucune force n'y est appliquée, il n'y a aucune raison pour que ça change quoi que ce soit. Il continuera son mouvement rectiligne uniforme. Et il a aussi élaboré la théorie de la gravitation. Par la suite, cette théorie a été mise en équation par un Hollandais qui s'appelle Anton Lorentz, et donc on connaît les équations de Lorentz, qui ont été reprises par Albert Einstein en 1905, justement, pour déboucher sur la théorie de la relativité restreinte. Donc, on cherche justement, est-ce que dans la théorie de Galilée, c'est lui, on va dire, le précurseur de tout cela, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème? Alors, c'est un Américain actuellement, un chercheur de l'Indiana, qui s'est lancé dans l'aventure. Il s'appelle Alan Kostelecki. Et Alan Kostelecki, ce qu'il a fait, c'est qu'il a truffé les équations de la relativité de petits paramètres qui, pour l'instant, sont tous égaux à zéro. C'est-à-dire que ça ne modifie absolument pas l'équation. Mais il existe actuellement à travers le monde toute une équipe, enfin des équipes de chercheurs qui chacun travaille sur la détermination précise de chacun des paramètres. Donc, dans chaque labo, ils mettent en place des expériences qui sont destinées à étudier la valeur d'un paramètre particulier. Et à travers le monde, chacun va étudier un de ces paramètres.
Donc effectivement, on truffe cette équation, ces équations de paramètres pour essayer de voir comment ça évolue, comment
exactement.
La théorie évolue.
Actuellement, avec la théorie de la relativité, tous les paramètres sont égaux à zéro. Et ce que chacun veut vérifier, c'est est-ce qu'ils sont bien nuls ou est-ce qu'il n'y aurait pas une petite décimale cachée un petit peu plus loin qui permettrait de commencer à modifier les choses et qui expliquerait bien des choses. Et alors, à travers le monde, il y a plusieurs labos qui sont justement sur les rangs. Alors, une expérience à Stanford, par exemple, c'est une équipe de 500 physiciens qui travaillent sur l'équilibre matière-antimatière. Donc, ils ont des détecteurs de particules pour sonder l'antimatière. Alors, l'antimatière, on va dire, c'est le contraire de ce qui existe. Un électron, c'est une particule de charge négative. Il lui existe son homologue de charge positive qu'on appelle l'anti-électron, qu'on appelle le positron. C'est la particule antimatière de l'électron. L'antimatière n'existe pas à l'état naturel. Pour la simple raison, c'est que dès qu'une particule d'antimatière rencontre une particule de matière, les deux s'annihilent complètement et transforment entièrement les masses en énergie.
Ça a existé un jour ?
Ça a existé à l'origine de l'univers, et là il y a un problème. Justement, c'est pourquoi l'antimatière a-t-elle disparu ? Parce qu'a priori tout est symétrique, dans les équations justement actuelles qui expliquent la physique, il n'y a aucune raison que l'une ait gagné par rapport à l'autre, puisque tout est symétrique. Puisque la matière a gagné, c'est qu'il y a un problème quelque part, et actuellement on n'arrive pas à l'expliquer. Donc cette équipe de Stanford, justement, est là pour analyser l'antimatière, qui n'existe qu'en laboratoire, on arrive à la fabriquer quand même. Elle ne dure pas très longtemps, parce qu'il suffit qu'elle rencontre la moindre particule de matière pour disparaître. Mais on arrive à la fabriquer en laboratoire. Et on constate maintenant, justement, que la matière a pris le pas sur l'antimatière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être un léger déséquilibre qui a favorisé la matière ? Mais si c'est le cas, ça entre en violation avec les lois, les principes de la relativité. Donc ils sont en train d'étudier ça. Ils créent des expériences et ils étudient comment marche la matière et comment se désintègre la matière et l'antimatière. Je reviendrai plus tard sur cette expérience-là, on commence à avoir les premiers résultats.
Très bien, ça promet d'être passionnant. À tout de suite. Alors Lionel, revenons sur le sujet que nous commencions à aborder avant la pause musicale. Passionnant, c'est une grande aventure en fait.
Exactement.
Enfin, en tout cas pour les scientifiques.
Exactement, parce que là, on est à l'aube de quelque chose, on essaye de mettre en place les bases de la future théorie qui expliquerait tout, la théorie du tout. Donc on parlait tout à l'heure des expériences qui existent à travers le monde. Une deuxième expérience, aux États-Unis, celle-là à Chicago, au Fermilab. Là, c'est un détecteur de neutrinos. Alors, les neutrinos sont émis par les étoiles, ils voyagent à travers l'univers, il y en a des milliards par centimètre carré par seconde qui nous traversent. Le gros problème des neutrinos, c'est qu'ils n'interagissent pratiquement pas avec la matière. Donc, aucun détecteur pratiquement n'existe. Ils peuvent traverser la Terre, nous-mêmes, sans qu'on sente absolument rien. Donc là, c'est évidemment un petit souci. On commence à faire des gros détecteurs. Alors, en général, c'est du liquide. On va les enterrer sous les montagnes pour justement les protéger des émissions parasites. Et ce qu'on observe, c'est les neutrinos qui viennent de l'autre côté de la Terre. Donc après avoir traversé, ils arrivent à interagir un petit peu avec le détecteur. Mais c'est ceux qui viennent de l'autre côté. Ils ont traversé tout le globe terrestre. Les neutrinos, il en existe trois types qui se transforment les uns en les autres. Les expériences ont montré qu'il existait un léger déséquilibre en faveur d'un des trois types. Et là, on en revient encore à l'expérience d'avant, ce qui prouverait qu'il y aurait une dissymétrie entre la matière et l'antimatière, et ça impliquerait une erreur de conception dans l'espace-temps. Et donc ça, c'est la base de la relativité.
Et ça impliquerait toujours que l'antimatière a disparu.
Exactement. Ça impliquerait qu'il y a une dissymétrie. Pourquoi ces trois types de neutrinos-là, pourquoi parmi ces trois types, il y en a un qui serait favorisé ? Alors que d'après les équations, ils changent d'état de l'un en l'autre, mais donc finalement, en fin de compte, il y aurait toujours un tiers, un tiers, un tiers. Chaque particule peut prendre une des deux autres valeurs, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait un des trois types de neutrinos qui soit plus favorisé que les deux autres.
Voilà.
Or, c'est ce que l'on observe.
C'est ce qu'on observe et c'est ce qui remet en cause tout.
Et
quoi.
C'est ce qu'on ne peut pas expliquer. On n'arrive pas à l'expliquer actuellement. Donc là, l'équipe de Chicago étudie ce phénomène justement de transmutation d'un neutrino d'un état à un autre.
Ce ne sont pas des erreurs de calcul, ça a bien été vérifié plusieurs fois.
Oui, tout à fait. Oui. Une autre équipe va utiliser, alors c'est pas une expérience qui a été montée sur Terre, c'est simplement une expérience qui étudie les données d'un satellite qui est en orbite depuis 2002 déjà. Alors c'est un satellite qui analyse les rayons gamma issus des vents solaires et aussi des rayons gamma qui viennent de coins très éloignés de l'univers qu'on appelle les sursauts gamma, dont on ne connaît toujours pas l'origine d'ailleurs. Mais on observe. Alors c'est pendant un bref instant, de quelques secondes à quelques minutes, une énergie colossale qui vient du fin fond de l'univers et on observe ça sur Terre. On ne sait pas ce qui les provoque. Et donc, cette équipe-là mesure simplement la polarisation de la lumière. La lumière qui se propage à travers l'univers, on va dire que c'est une oscillation qui oscille dans un certain sens. Et ce sens d'oscillation, c'est la polarisation. Et ils sont en train de chercher une altération probable de cette polarisation qui pourrait être encore une preuve d'une désorganisation dans l'espace-temps. Donc simplement à partir des données que l'on a depuis déjà 2002, on analyse tout ça et on cherche, on fouille pour voir s'il n'y aurait pas un problème dans la polarisation de la lumière à partir de ces données qui ont été observées depuis 2002. Une quatrième équipe, à Paris cette fois, au laboratoire de l'Observatoire de Paris, à l'horloge atomique. Donc c'est une horloge atomique qui marche au césium. Et cette équipe française, là, étudie pour voir si le temps s'écoule bien de la même façon dans toutes les directions de l'espace. C'était un des principes de Galilée qui disait que les lois sont les mêmes, quelle que soit la direction dans laquelle on les observe.
Et là, il y a un problème.
Alors, il y a peut-être un problème.
Peut-être, oui.
Peut-être. Donc là, on étudie, en fait, l'horloge atomique, la fréquence de l'horloge. Alors, les horloges atomiques sont des horloges qui sont extrêmement précises. C'est basé sur des transitions de niveau d'énergie d'atomes très particuliers. Tout est réglé à partir de lasers. Donc, c'est extrêmement précis. Et ce que l'on fait, à partir de ces horloges-là, on essaye de vérifier sur une période de 10 jours, dans chaque direction, pour que ce soit indépendant de la rotation de la Terre, si justement la fréquence ne changerait pas un petit peu. Et comme ce sont justement les fréquences les plus précises qui existent, ne serait-ce qu'une légère différence sera mesurable. Et là, c'est pareil, ça démontrera de façon évidemment flagrante, que s'il y a un problème dans les directions, c'est le principe de base même de la relativité et du principe d'inertie qui est en cause.
Et on a déjà une petite idée ?
Pour l'instant, on n'en a pas.
D'accord.
Toujours pas. Pour l'instant, on arrive à peu près au même résultat à chaque fois. Une cinquième équipe. Alors là, c'est un résonateur cryogénique. Eux, ce n'est pas le temps qu'ils vont étudier, c'est la vitesse de la lumière. Le principe de la relativité restreinte d'Einstein, c'est que la lumière se propage à la même vitesse dans toutes les directions de l'espace. Et que ce n'est pas une vitesse additive. C'est-à-dire qu'une fusée qui irait à la vitesse de la lumière, si elle émet quelque chose vers l'avant, ce n'est pas deux fois la vitesse de la lumière qui ira à la particule, par exemple. Donc ce n'est pas une vitesse additive, c'est vraiment une vitesse limite. Et donc cette équipe allemande refait en version moderne l'expérience de Michelson-Morley du 19e siècle. Alors c'était une expérience qui contenait deux bras dans lesquels on émettait un faisceau lumineux. Au bout des bras, il y avait un miroir qui renvoyait le faisceau lumineux vers le centre de l'expérience. Et au milieu, on récupérait la lumière et on vérifiait que dans les deux bras, en fonction de la longueur parcourue, eh bien la lumière était allée à la même vitesse. Alors pourquoi elle irait à deux vitesses différentes ? Pas simplement justement, c'est que dans un sens, eh bien, il y a un bras qui pourrait être dans le sens de la direction de la Terre autour du Soleil, et l'autre, perpendiculaire, n'est pas influencé par la vitesse de la Terre autour du Soleil. S'il y a une différence de vitesse entre ces deux bras, c'est que celui qui est dans le sens de la Terre a été augmenté de la vitesse de la Terre, ce qui est en contradiction. Et donc là, on est en train de refaire cette expérience-là. Alors c'est quelque chose d'ultra précis. Il y a deux lasers qui traversent deux cavités optiques. Les cavités optiques possèdent des éléments en saphir refroidis à moins 270 degrés. Donc on fait les choses vraiment de manière extrêmement précise et rigoureuse pour être sûr du résultat. Et donc là, c'est pareil. La lumière se réfléchit sur des petits trajets, mais des petits trajets à la vitesse de la lumière, ça fait finalement des longs trajets dans l'espace. Les cavités sont perpendiculaires et l'expérience est disposée sur une plaque tournante. Et comme ça, on peut vérifier les résultats dans toutes les directions.
Bien, on fait une nouvelle pause musicale et puis on verra, on étudiera peut-être tout ce qu'on espère trouver à partir de ces expériences. bien, toutes ces expériences sont menées à travers le monde. Pour certaines, il n'y a pas encore de résultats, puisqu'elles en sont à leur balbutiement. Mais pour d'autres, par contre, on commence à avoir des indications et des premiers résultats.
Alors, premier résultat, tout récent, puisqu'il date de cette semaine, c'est l'expérience de Stanford, les Anglais, ceux qui étudient justement la symétrie, ou plutôt la dissymétrie qu'il pourrait exister entre matière et antimatière. Donc, je rappelle, ils font des expériences, ils font des chocs de particules, et ils étudient la façon, le mode de désintégration entre la particule de matière et la particule d'antimatière. Et ils viennent de noter une différence significative de comportement entre ces deux désintégrations-là, entre la particule de matière et celle d'antimatière. C'est pas quelque chose de fortuit qu'ils auraient peut-être mal jugé, puisque cette expérience-là a été enregistrée sur 1200 désintégrations. Et des désintégrations qui ne sont pas expliquées par les lois de la physique actuelle. Donc c'est quelque chose de vraiment significatif. Ils ont vraiment mis le doigt sur quelque chose. Et donc, évidemment, puisque là, ils ont vraiment observé deux modes de désintégration différents, ça explique directement du même coup pourquoi au tout début du Big Bang, la matière a pris le pas sur l'antimatière. Il y a une dissymétrie là, entre ces deux types de particules. Malheureusement, avec les lois de la physique actuelle, on ne peut pas l'expliquer. Donc là, voilà, premier indice, il va falloir chercher une loi physique qui pourrait expliquer cette différence de désintégration entre les particules de matière et les particules d'antimatière.
Parenthèse, cette dissymétrie a privilégié la matière par rapport à l'antimatière, ça aurait pu être l'inverse.
Ça aurait pu être l'inverse, et on se poserait la question dans l'autre sens, puisque de toute façon, mis à part le problème de charge, il n'y a aucune différence entre matière et antimatière. Nous serions faits, on va dire, d'atomes d'antimatière, nous ne serions pas plus chargés pour autant, sauf que nos électrons seraient positifs et les protons seraient négatifs, et on se poserait la question dans l'autre sens. Donc ça ne changerait absolument rien dans la vie de tous les jours. Simplement, là on en est, c'est qu'avec nos lois de la physique, on ne peut pas expliquer qu'il n'y ait plus d'antimatière et qu'il ne reste que de la matière. L'équipe de Stanford vient de montrer qu'effectivement c'était le cas. Il y a une dissymétrie, les deux particules ne se désintègrent pas de la même façon. Donc là, c'est vraiment une preuve flagrante qu'il y a une différence.
Très bien. Alors, c'est le début d'une enquête, en fait.
C'est le début. Alors, là, c'est vraiment tout nouveau, puisqu'ils vont publier leur journal dans les jours qui viennent. Ils vont publier leur article dans les journaux scientifiques dans les jours qui viennent. Donc, c'est vraiment tout à fait nouveau. Les autres expériences, pour l'instant, on n'a pas de résultats. Mais il n'est pas impossible qu'ils mettent en évidence des choses particulières de la même façon. On attend simplement que les résultats commencent à tomber.
Alors on est un peu dans la position des premiers physiciens, enfin des premiers chercheurs. Je dirais, on découvre, on n'a pas beaucoup avancé en fin de compte depuis Galilée, et même depuis les Grecs, Ptolémée.
Si, on
a avancé, mais...
On avance quand même. Là où on avance, c'est simplement en technologie. On arrive à exploiter des phénomènes et des théorèmes qui ont été élaborés par les anciens, parce qu'on a atteint un niveau technologique suffisant. On a encore plein de choses dans les cartons dont on n'a pas encore le niveau technologique. On pense aux ordinateurs où la lumière remplacerait les électrons. Et donc là, il y aurait des ordinateurs photoniques. On ne parlerait pas de ça tourne à 2 MHz ou 2 GHz, on passerait dans les terahertz. Donc il y aurait une vitesse phénoménale. Donc ça, c'est simplement dans les cartons et on est juste coincé par la technologie. Donc on pourrait de même dire, on va dire dans 50 ans, dans 100 ans, on n'a pas inventé grand-chose. Les photons, on les connaît depuis longtemps, mais on n'avait juste pas les moyens de les mettre en œuvre. La lumière, ce n'est pas évident non plus.
On pourrait illustrer les propos par une image. On commence à défricher une forêt vierge. On n'en est qu'au premier bosquet et encore plein d'hectares derrière.
Exactement. À chaque bosquet, on va découvrir d'autres choses. Et finalement, on va voir où on en est et quelle est la taille de cette forêt-là. On ne sait pas jusqu'où on va aller avec ça.
C'est peut-être une forêt infinie, d'ailleurs.
Et peut-être.
Très bien. C'est un sujet passionnant. Bien évidemment, on aura l'occasion de reparler des résultats de ces travaux.
Ah bien sûr, on va suivre ça.
Voilà, qui vont révolutionner sans doute à terme notre façon de penser.
En gros, c'est fait pour. C'est fait pour, puisqu'il faut réunifier ces deux lois qui sont tout à fait disjointes et même contradictoires parfois. Il faut en faire une seule qui expliquerait tout. Et quand on aura trouvé cette loi-là qui expliquera tout, on pourra en déduire des choses que l'on ne connaît absolument pas actuellement. Donc là, on va vraiment vers de nouvelles choses.
Très bien, mais je rassure les admirateurs d'Einstein, ça ne remettra pas en cause les travaux de ce monsieur, pas forcément,
non,
et en tout cas l'intérêt de ce qu'il a fait.
Ce qu'on peut dire, c'est que les lois que lui a trouvées ne seront probablement que des approximations de cette future nouvelle loi.
Comme l'étaient les découvertes de Newton.
Comme l'était Newton à l'époque sur sa loi de la gravitation. C'était une approximation de la loi de la relativité générale.
Voilà, on peut le reconnaître en tout cas qu'ils nous ont permis d'avancer et d'arriver jusqu'à ce point-là.
Hein,
ce qui est quand même loin d'être négligeable.
Ah bah, très très loin. Mais...
Très bien, on fait une dernière pause musicale et puis on va parler de choses beaucoup plus concrètes puisqu'on va parler du club Albireo 78 et puis de son activité et notamment il y a une nouveauté.
Exactement, on a du matériel tout nouveau.
Très bien, on en parle dans un instant. Lionel, revenons dans la réalité, dans le concret. On a abordé des théories qu'il faut dire laisse un peu songeur, un peu rêveur pour l'instant. Hein. Et on aura peut-être l'occasion de se rendre compte de leur importance quand effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, quand ces connaissances s'appliqueront dans la vie quotidienne et dans la technologie qui nous entourera.
Voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite.
C'est pas pour tout de suite.
Et peut-être simplement réservé à certains professionnels, certains experts.
Effectivement. Venons-en donc à la vie du club Albireo 78.
Exactement. Alors nous, on revient plutôt sur Terre et parmi les amateurs. Nous venons de faire l'acquisition d'un tout nouveau télescope équipé d'une monture GoTo. Alors, je vais expliquer rapidement ce qu'est une monture GoTo. C'est pour les amoureux du ciel qui voudraient découvrir les objets célestes. Il y a plein de choses à voir, outre les planètes, que on en voit quelques-unes à l'œil nu, mais Uranus, Neptune, déjà, il faut vraiment savoir où pointer le télescope pour les observer. Il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Des restes d'étoiles en fin de vie. Souvent, ça fait de magnifiques nébuleuses planétaires, ou alors des amas globulaires, donc ce sont des boules d'étoiles qui sont en orbite autour de notre galaxie. Soit, il faut être assez chevronné déjà pour savoir où sont-ils précisément dans le ciel, mais aussi pour utiliser le télescope et pointer précisément là où ils sont. Soit on utilise une des toutes récentes technologies, ce sont les montures GoTo. C'est-à-dire qu'il suffit de dire « aller à », GoTo en anglais c'est « aller à ». On donne simplement le code de l'objet à observer, et le télescope pointe directement à l'endroit voulu.
Voilà,
c'est magique.
C'est magique, c'est de l'informatique.
C'est magique, c'est de l'informatique, tout à fait. Et c'est vrai, c'est formidable, parce que là, au moins, on peut couvrir tout le ciel, on peut observer plein de choses, et on apprend vraiment son ciel. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances, puisqu'il faut connaître les codes. Ça n'empêche pas d'apprendre, on va dire, les bases dans les livres. Ça n'empêche pas. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que pour que la monture puisse pointer vraiment précisément là où on veut, il faut quand même la régler, la monture. Ça veut dire qu'il faut lui apprendre le ciel. Donc lorsque l'on pose le télescope un soir dans un champ, par exemple, on rentre bien évidemment les coordonnées approximatives du champ, parce que qu'on soit en France ou en Australie, le ciel n'est pas le même. Donc on dit quand même, on informe la monture, je suis à cet endroit-là précisément, avec les coordonnées, on est tel jour, on est à telle heure. Donc la monture, déjà, sait approximativement comment est le ciel. Parce qu'à un endroit précis sur Terre, un jour précis, une heure précise, le ciel, il n'y en a qu'un. Ensuite, on va régler la monture plus finement en lui pointant quelques étoiles particulières. Pour faire un pointage très précis, on lui apprend où se trouvent trois étoiles. Donc par exemple, on en choisit une dans le catalogue de la monture. Le télescope se dirige approximativement vers l'étoile qu'on a choisie. On affine la position et on lui dit « elle est là ». On en choisit une deuxième. Le télescope commence à avoir un peu plus une idée du ciel, il se dirige à peu près vers la deuxième. On affine encore la position, on lui dit celle-là, elle est là. Et enfin la troisième, en général, ça tombe pile poil dessus. Donc il faut connaître le nom des étoiles et les constellations que l'on vise. Donc ça n'empêche pas d'apprendre, justement. C'est pas quand même une monture pour les feignants, c'est pas jusque-là. Une fois que la monture est réglée avec ces trois étoiles, plus aucun problème, il sait exactement comment est le ciel. La monture, elle, est équipée pour compenser la rotation terrestre et pour toute la nuit, il connaît le ciel, il sait exactement où se trouve le moindre des objets.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a fallu trois étoiles pour qu'il fasse ses règles de base.
Voilà, voilà, exactement.
Ses réglages de base.
Trois étoiles, les réglages sont faits, il sait exactement comment est votre ciel et donc il peut repérer tous les astres, tous les objets à partir de ce qu'il vient de calculer. Et donc j'ai fait l'expérience et avec notre nouveau télescope justement et cette nouvelle monture, j'ai observé des petites nébuleuses planétaires, j'ai été voir Uranus, Neptune, des planètes que peu d'amateurs vont voir puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu, on ne les voit pas dans les chercheurs des télescopes, on ne les voit qu'à l'oculaire. Et il faut vraiment pointer, mais alors c'est drastique le pointage nécessaire pour les observer. Avec une telle monture, il n'y a plus aucun problème.
Et de façon satisfaisante ?
Ah bah ça tombe pile au centre du champ. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Même à la limite, si on fait un réglage grossier, ça tombe de toute façon dans le champ, pas forcément au centre, mais on est dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de redoutablement efficace et c'est appréciable de pouvoir découvrir des choses sans perdre son temps, parce que je me souviens, et c'est arrivé souvent à beaucoup d'amateurs, quand on cherche une galaxie et quand on tourne 2 heures autour et on ne la voit pas, ça devient pénible à force. Là, il suffit de dire au télescope « je veux voir ça », il n'y a pas de problème. Si le télescope est suffisamment puissant pour pouvoir voir l'objet, il n'y a pas de problème. Là, j'ai testé quelques galaxies qui étaient quand même un petit peu hors de portée, avec la luminosité du ciel que l'on a quand même dans la banlieue, région parisienne.
Très bien, donc on invite les férus.
Et bien sûr, le samedi soir, quand il fait beau, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut venir observer avec nous et voir justement notre nouvelle acquisition.
On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.